Aventure de l'étudiant allemand. Pendant une nuit d'orage, à l'époque funeste de la Révolution française, un jeune Allemand traversait de nuit un ancien quartier de Paris pour se rendre à sa demeure. On voyait briller de fréquents éclairs, et d'impétueux éclats de tonnerre retentissaient dans les rues étroites. Mais je dois d'abord vous dire quelques mots de ce jeune Allemand. Gottfried Wolfgang était un jeune homme de bonne famille. Il avait étudié quelque temps à Göttingen, mais son caractère visionnaire, enthousiaste, l'avait entraîné dans le dédale de ces doctrines spéculatives qui ont égaré tant de fois les étudiants allemands. Sa vie solitaire, son implication constante et la nature singulière de ses études influèrent à la fois sur son esprit et son corps. Sa santé fut affaiblie, son imagination troublée. Livré à des spéculations imaginaires sur les essences spirituelles, il en était venu, comme Swedenborg, à s'entourer d'un monde idéal de sa propre création. Il se mit en tête, je ne sais pourquoi, qu'une influence fatale l'entourait, qu'un mauvais génie, un esprit de ténèbres, cherchait à le séduire et à le perdre. Une telle idée, s'emparant de ce tempérament mélancolique, produisit les plus terribles effets. Il devint triste, désespéré. Ses amis découvrirent la maladie mentale qui le consumait et pensèrent que le changement de lieu en serait le meilleur remède. On l'envoya donc achever ses études au milieu des fêtes brillantes de Paris. Wolfgang arriva dans cette ville dans les premiers moments de la Révolution. Le délire populaire séduisit d'abord son âme enthousiaste, et les théories politiques et philosophiques du jour le captivèrent. Mais les scènes sanglantes qui suivirent révoltèrent sa sensibilité, le dégoûtèrent de la société et du monde, et le firent vivre plus retiré que jamais. Il s'enferma dans un appartement solitaire du pays latin, quartier des étudiants. Là, dans une rue obscure, voisine des murs monastiques de la Sorbonne, il poursuivait ses spéculations favorites. Quelquefois, il passait des heures dans les vastes bibliothèques de Paris, ces catacombes d'auteurs oubliés, et tirait de leur poussière des monceaux de livres inconnus pour satisfaire son appétit malsain. Il était, pour ainsi dire, un vampire littéraire vivant des hideux débris d'une littérature morte. Wolfgang, malgré sa vie solitaire, était d'un tempérament ardent, mais qui n'agit pendant quelque temps que sur son imagination. Il était trop timide et trop étranger au monde pour faire des avances aux belles, mais admirateur passionné de la beauté des femmes. Dans sa chambre solitaire, il s'égarait dans de fantastiques rêveries sur les beautés qui avaient frappé ses yeux, et son imagination en composait des images bien supérieures à la réalité. Son esprit était dans cet état de fermentation et de mouvement quand il eut un rêve qui produisit sur lui un effet extraordinaire. Il vit en songe une femme d'une merveilleuse beauté. Telle fut la force de l'impression qu'il y rêva plusieurs fois. Le jour, cette image occupait ses pensées. La nuit, elle charmait son sommeil. En un mot, il se passionna pour l'ombre d'un rêve. Cette fantaisie dura assez longtemps pour devenir une de ces idées fixes qui se gravent dans les âmes mélancoliques et qu'on prend souvent pour la folie. Tel était Gottfried Wolfgang, tel était son état à l'époque dont j'ai parlé. Il revenait chez lui pendant une nuit d'orage, à travers les rues sombres et antiques du Marais, ancien quartier de Paris. Des éclats de tonnerre faisaient trembler les hautes maisons de ces rues étroites. Il arriva à la place de Grève, théâtre des exécutions publiques. Les éclairs brillaient sur les pinacles antiques de l'hôtel de ville et rejetaient des lueurs fugitives sur l'espace nu qui l'avoisine. Wolfgang, en traversant la place, recula d'horreur en se trouvant au pied de la guillotine. C'était au milieu du règne de la terreur, lorsque cet instrument de mort était toujours prêt et son échafaud sans cesse inondé du sang du vertueux et du brave. Ce jour-là même, il avait été activement occupé à l'œuvre de carnage. Il s'élevait menaçant dans le silence d'une cité endormie, attendant des victimes nouvelles. Wolfgang sentit son cœur se déchirer et se détourner en frémissant de cet horrible appareil quand il aperçut dans les ténèbres un corps qui semblait se pencher sur les degrés de l'échafaud. Une succession rapide d'éclairs le lui découvrit plus distinctement. C'était une femme vêtue de noir. Elle était assise sur un des degrés inférieurs de l'échafaud, inclinée en avant, la tête baissée sur son sein et ses longs cheveux tombés en désordre jusqu'à terre au milieu d'un torrent de pluie. Wolfgang s'arrêta. Ce solitaire monument de douleur avait quelque chose de terrible. L'extérieur de cette femme annonçait un rang élevé. Il savait que l'époque était pleine de vicissitudes et que plus d'une belle tête qui naguère avait reposé sur le duvet errait maintenant sans asile. Peut-être était-ce quelqu'un fortuné que la hache terrible avait laissé seul au monde et qui venait, désolé, s'asseoir au bord de l'abîme de l'existence dont tout ce qui lui était cher avait été précipité dans l'éternité. Il s'approcha et lui adressa quelques paroles d'un ton de pitié. Elle leva la tête et le regarda d'un air égaré. Quel fut son étonnement en reconnaissant, à la lueur brillante d'un éclair, les traits que ses rêves lui avaient présentés tant de fois. Elle semblait pâle et perdue, mais d'une ravissante beauté. Agité de violentes émotions, Wolfgang se rapprocha d'elle. Il lui dit quelques mots sur son état d'abandon à une telle heure de la nuit et, dans la fureur d'une telle tempête, il offrit de la conduire à ses amis. Elle montra la guillotine avec un geste terrible. « Je n'ai point d'amis sur la terre, » dit-elle. « Mais vous avez une demeure, » reprit Wolfgang. « Oui, dans le tombeau. » Le cœur du jeune homme tressaillit à ces paroles. « Si un étranger, » dit-il, « ose faire une offre sans crainte d'être mal compris, je vous propose pour asile mon humble demeure, et moi-même pour ami dévoué. Moi aussi, je suis sans amis à Paris et étranger sur la terre. Mais si ma vie peut vous être utile, elle est dans vos mains, et je suis prêt à la perdre pour vous préserver d'un malheur ou d'une offense. » Il y avait dans les manières du jeune homme une candeur qui fit son effet. Son accent étranger était aussi en sa faveur et montrait qu'il n'était pas un des habitants avilis de Paris. Le véritable enthousiasme a une éloquence qui dissipe tous les doutes. L'étrangère sans demeure se confia implicitement à la protection de l'étudiant. Il soutint ses pas chancelants à travers le pont neuf et près de cette place où la statue d'Henri IV venait d'être renversée par la populace. L'orage s'était affaibli et le tonnerre grondait dans le lointain. Paris entier était tranquille. Ce volcan des passions humaines, pour quelque temps endormi, rassemblait des feux nouveaux pour l'éruption du lendemain. L'étudiant conduisit sa compagne par la rue ancienne du Pays Latin, près des murs ténébreux de la Sorbonne, au grand et sombre hôtel qu'il habitait. La vieille portière qui les reçut recula de surprise en voyant le mélancolique Wolfgang accompagné d'une femme. En entrant dans son appartement, l'étudiant, pour la première fois, rougit de la pauvreté de sa demeure. Il n'avait qu'une chambre, pièce à la mode antique, ornée de lourdes ciselures et meublée des débris bizarres de sa première magnificence. Car c'était un de ces hôtels du quartier du Luxembourg qui avait autrefois appartenu à la noblesse. La chambre était encombrée de livres, de papiers et de tout l'appareil ordinaire d'un étudiant. Et au fond, dans une alcôve, était son lit. Quand on eut apporté des lumières et que Wolfgang fut mieux à portée de contempler l'étrangère, il se sentit plus que jamais épris de ses charmes. Sa figure était pâle mais d'une éblouissante beauté, et ses longs cheveux tombaient en boucle autour de sa tête. Ses yeux étaient grands et brillants, et d'une expression qui semblait approcher de la folie. Son corps, autant que sa robe noire le laissait découvrir, était d'une parfaite symétrie. Toute sa personne était frappante, malgré la simplicité de ses vêtements. Un large collier noir, agrafé de diamants, était le seul ornement qu'elle porta. L'étudiant commença alors à se trouver embarrassé pour loger l'être infortuné ainsi jeté sous sa protection. Il songea à lui abandonner sa chambre et à aller lui-même chercher ailleurs un asile. Cependant, sa beauté semblait avoir jeté sur ses pensées, sur ses sens, un charme si puissant qu'il ne pouvait s'arracher à sa présence. Ses manières étaient étranges, inexplicables. Elle ne parlait plus de la guillotine. Son chagrin avait disparu. Les attentions de l'étudiant avaient conquis sa conscience et sans doute aussi son cœur. Elle était évidemment enthousiaste comme lui, et les enthousiastes se comprennent bien vite. Dans cet instant d'égarement, Wolfgang lui fit l'aveu de sa passion. Il lui raconta son rêve mystérieux et comment elle régnait dans son cœur avant d'avoir frappé ses regards. Elle fut singulièrement affectée par ce récit et avoua qu'elle s'était sentie poussée vers lui par une impulsion également inexplicable. C'était un temps de désordre dans les opinions et la conduite. Les préjugés, les superstitions anciennes étaient effacées. Tout reconnaissait l'empire de la déesse raison. Entre autres abus des temps anciens, les formes et cérémonies du mariage commençaient à être regardées comme des liens superflus pour des âmes honorables. Les pactes sociaux étaient en vogue. Wolfgang était trop théoriste pour n'être pas souillé des doctrines libérales de l'époque. « Pourquoi nous séparer ? » dit-il. « Nos cœurs sont unis. Aux yeux de la raison et de l'honneur, nous sommes unis. Qu'est-il besoin de vaines formalités pour lier des âmes élevées ?» L'étrangère l'écoutait avec émotion. Elle avait évidemment reçu les lumières de la même école. « Vous n'avez ni maison ni famille, » reprit-il. « Eh bien, je serai tout pour vous. Ou plutôt, soyons nous-mêmes tout l'un pour l'autre. Si les formes sont nécessaires, elles seront observées. Voilà ma main, je m'engage à vous pour toujours. »« Pour toujours ?» dit l'étrangère d'un ton solennel. « Pour toujours !» répéta Wolfgang. L'étrangère saisit la main qu'il lui présentait. « Alors, je suis à vous, » murmura-t-elle, et elle tomba sur son sein. Le lendemain, l'étudiant, laissant son épouse endormie, sortit le matin pour chercher un appartement plus vaste, assorti à son nouvel état. À ce retour, il trouve l'étrangère couchée la tête sur le lit et appuyée sur un bras. Il lui parle, mais ne reçoit pas de réponse. Il s'avance pour la tirer de cette position gênante, il prend sa main, Elle était glacée. Le pouls était immobile. Sa figure était pâle, inanimée. En un mot, c'était un cadavre. Égaré, hors de lui, il donne l'alarme à la maison. Une scène de confusion s'ensuivit. La justice fut appelée. L'officier de police, en entrant dans la chambre, tressaillit à l'aspect du cadavre. « Dieu, dit-il, comment cette femme est-elle venue ici ?»« La connaissez-vous ? » dit Wolfgang vivement. « Moi ? » s'écria l'officier. « Elle a été guillotinée hier. » Il s'avança vers elle, détacha le collier noir qui entourait son col, et la tête roula à terre. Un accès de rage saisit l'étudiant. « le démon s'est rendu maître de moi » criait-il en sanglotant. « Je suis perdu pour toujours !» On essaya de le calmer, mais inutilement. Il était poursuivi par l'effrayante pensée qu'un mauvais génie avait ranimé ce corps mort pour le séduire. Sa raison s'égara, et il est mort dans une maison de fous. Ici, le vieux gentilhomme à la tête à revenant termina son récit. « Et ce fait est-il vrai ?» dit le gentilhomme aux questions. « Un fait indubitable, répliqua l'autre. Je le tiens de la plus sûre autorité, de l'étudiant lui-même. Je l'ai vu apparaître dans une maison de fous. »